Armand Sylvestre, conte audacieux. Le volcan vivant. Quand de la cime marmoréenne du Fusiyama, et sur un ciel rose comme s'il neigeait des fleurs d'amandier, monte la fumée grise d'un nuage, nous disait mon vieux camarade, le capitaine Pigeves, retour de Yedo, tout le Japon tremble qu'un volcan ne s'allume, et prend pour des laves ardentes les coulées de pourpre que met au flanc de la montagne sacrée l'éternel incendie du soleil levant. La vie familière peut produire des phénomènes semblables et également inquiétants, ajouta le major Cucuron, qui avait fait le même voyage, et n'était mon respect pour les dames, qui nous peuvent écouter, tout en grignotant des sorbets, je vous dirai à ce sujet une plaisante aventure, et qui en veut pour décor le même pays. Nous assurâmes le vertueux Cucuron que ces dames, au cas où elles l'entendraient sans en avoir l'air, aimaient à rire autant que nous. Celui fut un encouragement à commencer son récit, et je ne suis plus vraiment que son sténographe dans ce que vous allez lire. J'ajouterai que le major est un homme incapable de mentir, ce qui l'a également empêché de réussir auprès des femmes et dans sa carrière. Mais ses camarades l'aimaient beaucoup, parce qu'il ne les a gênés en rien dans leur propre avancement. Ceux même qui lui ont sensiblement passé sur le dos sont les premiers à se montrer révoltés des passe-droits qui lui ont été faits, grâce à son absence complète d'esprit d'intrigue. Doué d'un physique agréable et adorant in petto le sexe, Cucuron n'est jamais parvenu à faire un cocu, parce que ce singe en bouche d'or, capable d'un accès de franchise irréfléchi, n'inspire aucune confiance aux épouses adultères. Maintenant vous le connaissez comme je le connais, et vous pouvez être assuré de l'authenticité parfaite de tout ce qui suit. C'était, nous dit-il, à Kohi, où une colonie américaine importante s'est installée depuis quelques années et donne l'exemple de la plus moderne civilisation. Toutes les hypocrisies du protestantisme et de la fausse vertu y sont représentées. Un monde plein de révérends et de flirteuses, où les propos bibliques se croisent avec les propos d'amour, et où les dates des jeunes filles se calculent entre deux tasses de thé. Société où il me déplairait infiniment de vivre, mais qui ne s'en croit pas moins la première du monde parce que le Kant y est la suprême morale. Les Miss blondes, comme les blés, et les mistresses aux longues dents, qui représentent l'éternel féminin, n'y sont pas pour consoler l'âme de quelque dégrilleux ayant perdu Manon. Mais elles font, dans un salon, un effet vraiment décoratif d'épaules blanches, jaillissant d'irréprochables toilettes. Or, ce soir-là, la présidente même de cette petite république d'exilés opulents et volontaires, Milady Ophélie Alésifort, avait réuni l'élite de cette compagnie sélecte, la fine fleur du high life perdue dans ce coin parfumé de l'Extrême-Orient. À toutes les distractions d'usage, valses lentement bostonnées, romances miaulées par des demoiselles, whist occulte sous les abat-jours d'un verre tendre, jeux innocents où l'on déchire des petits papiers, elle avait voulu ajouter une great attraction et avait fait venir de Hakodate le plus célèbre prestidigitateur indigène, le fameux Kikapete, le Robert Houdin du pays des esquisses porcelaines. Celui-ci, instamment prié de demeurer dans la couleur locale, arriva vêtu du kimono national, un vêtement qu'il importe avant tout de décrire. Le kimono est une façon de manteau, ou mieux de peignoir, car il se pose à nu sur la peau. Ordinairement bariolé d'oiseaux monstrueux et de fleurs étranges, de poissons bizarres et de maisons en bambou, qui se croisent sur la poitrine et qu'une ceinture retient à la taille. Entre le kimono et l'épiderme de celui qui le porte, se trouve une mince ficelle s'enroulant autour du corps, et qui est en même temps un objet de superstition locale. Car ce brin de chanvre passe pour préserver de tous les maux, y compris le cocuage, et tout bon japonais ne manque jamais de se faire enterrer avec lui. En effet, ce peuple sage sait bien qu'il est plus aisé d'éviter les ennuis de toutes sortes dans le monde à venir que dans celui-ci. Tels les Égyptiens se faisaient accompagner de leur chat favori dans la tombe, usage que beaucoup de dames de ce temps ont d'ailleurs conservé. Kikapete fit une entrée pleine de tenue et qui fit augurer heureusement du succès de bon goût qu'il ne saurait manquer d'obtenir devant un public fait pour bien inspirer son imagination féconde. Mais il arriva que la plupart des tours par lesquels il commença étaient un peu connus de tout le monde. Nul ne se passionna pour les jolis papillons en papier qu'il faisait voleter avec le souffle de son éventail. Froidement, on le vit ensuite faire rouler, avec un vague grondement de toupie, un dollar sur un large parasol qui l'orientait dans toutes les positions, sans exciter le moindre enthousiasme. Il promena, sans en laisser choir un seul, des œufs sur le tranchant d'un sabre qu'il faisait tourner autour de lui. Encore, et sans réveiller l'attention davantage, éleva-t-il une façon de tour Eiffel en vers savamment équilibré. Sournoisement, quelques joueurs de whist avaient regagné leur table. L'âme d'une valse inachevée renaissait sur les touches d'un clavecin lointain. Les demoiselles esquissaient dans leur jolie gorge le miaulement qu'on leur demanderait bientôt sans doute. Enfin, pour être franc, tout en reconnaissant que la petite fête était charmante et que Milady Alesiford avait fort bien fait les choses, on s'ennuyait cordialement. Toutes les mâchoires se décrochaient une à une. Les amateurs de flirtation avaient des inquiétudes dans les jambes. Kikapété, qu'on applaudissait par politesse, ne s'apercevait nullement de cet effet désastreux de son talent. Vaniteux comme tous les artistes, les chanteurs exceptés, qui sont généralement modestes. Il était convaincu que jamais il n'avait fait autant de plaisir. C'est donc presque sur le ton de l'excuse et du regret qu'il annonça le dernier tour par lequel il terminerait la séance. Tel un cheval lassé redouble d'allure et retrouve des jambes quand l'écurie approche, tel le public sélect, réuni par Milady Alesiford, retrouva un peu d'attention pour subir cette dernière épreuve. Avec une curiosité courtoise jusqu'à l'affectation, il regarda donc Kikapété allumer gravement, après l'avoir bourré de tabac, une pipe neuve des manufactures de M. Gambier. Puis, les mains croisées derrière le dos, aspirait lentement des bouffées, qu'il rejetait ensuite en l'air, sous la forme de spirales d'azur transparent, aux plis les plus capricieux. Mais voici où commença l'intérêt de l'expérience. Peu à peu ne vit-on pas le tuyau de la pipe se raccourcir. Bientôt ce ne fut plus que le classique brûle-gueule. Le fourneau lui collait aux lèvres et les devait brûler, quand l'escamoteur ouvrit complètement la bouche, happa le tout, et fit descendre au fond de son gosier le petit rond de terre blanche, dont la lumière rouge éclairait le dedans, si bien que ses joues avaient des transparences rosées de lanterne, cependant que montait toujours de ce foyer une fumée devenue grise. Un mouvement de déglutition, une convulsion du larynx, et la pipe tout entière est complètement avalée, comme le prouve la bouche grande ouverte de l'aspirateur, qui montre au public qu'elle est parfaitement vide. Mais ce ne fut pas tout. Et ici survient un phénomène bizarre, très inexplicable, sans doute physiologiquement. Le japonais, faisant haleter son estomac comme le soufflet d'une forge, a l'air d'aspirer intérieurement et rejette à chaque expiration un torrent de fumée bleuâtre. Quoiqu'engloutie dans l'œsophage, la pipe brûlait encore. Comme ces feux opiniâtres qui s'irritent au fond des eaux, pour citer deux jolis vers d'Émile Deschamps. Progressivement, cependant, la quantité de vapeur exhalée diminue. En vain, le prestidigitateur redouble d'efforts. Ce n'est plus que de l'air incolore qui lui sort par la bouche. Un tonnerre d'applaudissements le récompense, en même temps qu'un grand soupir de soulagement gonfle les poitrines, et on se prépare à partir. Mais d'un geste plein d'autorité, le magicien fait signe que le tour n'est pas fini, et impose, en même temps que le silence, un redoublement d'attention. Avant qu'on ait eu le temps moral de dire « ouf », Kikapété s'est précipité la tête en bas, et assied sur ses bras tendus un nouvel équilibre. Comme une large tulipe aux pétales flottants, son kimono s'est retroussé dans ce mouvement brusque et l'escamoteur, présent au public, sont derrière parfaitement nus. tandis que sa tête et ses bras sont enveloppés par les plis gracieusement retombés de la soie. Et, de ce nouveau Fusiyama, de ce volcan vivant, monte une petite colonne de fumée azurée. La pipe avait descendu encore et s'était retournée elle-même devant cette brusque révolution. Ce fut un tonnerre de shocking. Un indicible embrouillement de mains se ramenant sur les yeux, des jupes déchirées dans la rapidité de la fuite, des « i » et des « a » et des versets de la Bible que les révérends jetaient au plafond. Le malheureux Kikapété, ne comprenant rien à ce vacarme, croyait que le public s'impatientait parce que la fumée ne sortait pas encore et poussait à se crever. Deux solides valets le redressèrent sur ses jambes et il fut violemment jeté à la porte, avec son argent toutefois, ce qui le consola un peu. Aujourd'hui encore, il est convaincu que le motif de cette émeute est que son truc a raté. Il donnerait tout au monde pour savoir s'il ne lui est vraiment rien sorti du derrière. Il craint d'être devenu impuissant. Il parle de se tuer. « C'est la première fois que ça m'arrive », dit-il à tous ceux de ses confrères à qui il cause professionnellement. C'est aussi ce que les galantins sur le retour disent quelquefois aux dames. À l'âge où pour l'homme, comme l'a si bien dit le poète, la femme est comme une île escarpée et sans bord. On n'y peut plus rentrer que quand on est dehors. Ici, nous dit Cucuron, se termine l'histoire du volcan vivant.